et de sel. Une série pour découvrir le parc national des Calanques, sa biodiversité et son patrimoine. Du fond de la Méditerranée aux îles, de sa flore endémique à l'histoire de ses calanques, écoutez les mystères de ces paysages bleus et blancs. Une réalisation de Radio Grenouille, Euphonia.
Vous êtes sur le bord de mer, en Méditerranée, entre Marseille et Cassis. Le calcaire blanc plonge dans la mer et forme un milieu unique, s'étirant de quelques brasses sous l'eau jusqu'à une dizaine de mètres sur le littoral. Une zone de lien étroit entre nous, les humains, et les autres vivants qui sont là. Là où l'on se baigne, là où l'on pêche, où l'on a construit nos routes, où l'on se balade. Un espace de rencontre où l'humain s'est un peu trop imposé. Alors, où s'installer? Où marcher? Qui envahit? Les plantes ou le béton? Quoi protéger? Quoi réguler? Voilà une sorte de guide pratique à la rencontre de cette frange littorale, de ses secrets et des chemins respectueux qui mènent à ce bord de mer, fragile et essentiel.
Définir la frange littorale, c'est toujours un vieux débat. Est-ce que ça renvoie à ce que c'est que le littoral? Ça renvoie à ce que c'est que la zone côtière? Le plus simple, c'est de se baser sur ce qui définit le littoral. Le littoral, c'est la rencontre entre la terre et la mer. Je suis Thierry Tatoni, je suis professeur ex-Marseille Université en sciences écologiques et je suis aussi président du conseil scientifique du parc national des Calanques. La frange littorale, sur le plan écologique, c'est la zone où l'influence d'un élément va se ressentir sur l'autre élément. Ça veut dire quoi ? C'est la zone à terre où on va subir, où on va ressentir l'influence marine directement, et c'est la zone en mer où on va aussi avoir l'influence de la terre qui va se faire sentir. Et ça se traduit par des écosystèmes qui sont très particuliers, qui sont liés d'un côté à la présence de la mer, de l'autre à la présence de la terre.
Des goélands et des cormorans,
des éponges, des gorgones,
des fruits et fleurs de posidonie,
des étoiles de mer,
des littorines, des bernards l'ermite,
des eaux de sèche,
des murex, des moules, des dattes de mer,
des anémones,
des poulpes, des oursins, des méduses.
Le littoral des Calanques, il a déjà quelque chose de particulier, c'est que sa zone de contact entre la terre et la mer, c'est une zone qui est assez rude, assez abrupte, c'est-à-dire on n'a pas de grandes plages de sable, très peu de plages de sable, très peu de plages de galets. En revanche, on a cette roche qui tombe directement dans l'eau. On a une zone de contact assez particulière qui est un petit peu brunâtre, on va dire, qui est une sorte de jaune foncé, brun, marron. Ce sont des micro-organismes, ce sont des cyanobactéries qui se sont installées là sur les rochers, qui profitent de zone de battement des vagues. Cyanobactéries qui, au passage, sont les prairies pour les petits coquillages qui vont brouter ça. À Marseille, on appelle ça les arapèdes. Et ces arapèdes, en broutant, elles vont creuser un petit peu la roche pour grignoter ces cyanobactéries. Et c'est ce qui fait qu'on se fait mal aux pieds quand on va se baigner. C'est cette roche qui pique. Ça nous avertit. Attention, on arrive dans l'eau. Attention, on rentre dans un autre type d'écosystème. Ben, prenez soin, il faut y aller en douceur. Et je trouve que c'est une belle image de se dire que chaque fois qu'on rentre dans l'eau, il faut être respectueux de ce qu'on va rencontrer. Et ces petits rochers piquants nous rappellent qu'il faut y aller en douceur.
Des crabes,
une cuirasse,
des restes de ponte de murex,
l'Astérix maritime,
et un œuf de raie,
une petite taille, saladelle naine.
Après, il y a une zone juste au-dessus qui est sans arrêt arrosée par les embruns, et là on va trouver des végétations, des types d'écosystèmes qui ont besoin de ce sel. Ces plantes-là s'appellent des plantes halophiles. Halo, ça veut dire le sel. Phile, ça veut dire aimer. Ce sont des plantes qui aiment le sel. Donc, qui ont besoin de sel dans leur métabolisme. Et juste au-dessus, vous avez des plantes qui arrivent à pousser malgré la présence du sel. Il n'y a pas tout le temps des embruns, mais dès qu'il y a un petit coup de vent, il y a des embruns. Et là, on va trouver des plantes qu'on appelle halo-résistantes, c'est-à-dire des plantes qui résistent au sel. Et c'est là qu'on va trouver ces fameuses frillanes,
perce-pierre. Cinéraire maritime, endémique. Des poils, fleurs blanches, en étoiles.
Et ces plantes-là, elles poussent tellement lentement qu'on a l'impression qu'elles sont mortes. C'est pour ça qu'on appelle des friganes, parce que friganos, ça veut dire bois mort. Donc on a l'impression qu'elles sont mortes. En fait, elles ne sont pas du tout mortes. Simplement, c'est des plantes qui mettent du temps pour pousser. Elles se mettent en coussinet pour résister le plus possible à la chaleur. Elles développent des poils, sur leurs feuilles, elles développent des pores pour capter la moindre quantité d'humidité.
La passerine tartonraire. Le plantain à feuilles en haleine. L'astragale est surnommée coussin de belle-mère.
Alors pourquoi les plantes vont venir s'installer là? On n'est pas directement au bord de l'eau, on n'est pas trop à l'intérieur des terres, c'est-à-dire on reçoit des embruns, mais l'avantage c'est qu'on a la paix. Personne ne vient les embêter parce qu'on n'a pas envie d'habiter là. Les autres plantes n'ont pas envie de descendre, même les plantes de la galerie qui sont habituées à la chaleur, qui sont habituées au vent, qui sont habituées au manque d'eau, là le sel c'est trop pour elles. Donc même les plantes de la galerie comme le romarin, comme le chêne kermès, ben, au bord de l'eau elles n'aiment pas trop parce qu'il y a du sel. Les friganes, c'est un habitat d'intérêt communautaire sur le plan strict de la protection de la nature, c'est-à-dire référencé au niveau européen. Et la frigane type à Marseille, qui est reconnue comme habitat prioritaire, elle est définie par trois espèces particulières qui sont l'astragale de Marseille, le plantain à feuilles étroites et la passerine tartonraire. Elle n'a pas d'autre nom plus simple. Et à Marseille, on est le seul endroit, enfin autour de Marseille, c'est le seul endroit au monde où on trouve ces trois espèces. Il y a d'autres friganes dans le monde, parce que la frigane, c'est d'abord la physionomie, c'est-à-dire ces espèces qui sont très basses et un peu encoussinées. Il y a de l'astragale, du plantain, de la passerine ailleurs dans le monde, pas beaucoup. Mais ces trois-là, il n'y a que ici, entre Marseille et Cassis, quasiment, où on trouve ces trois espèces qui constituent cet habitat prioritaire. Donc ça veut dire qu'en termes de protection, on a un enjeu fort pour essayer de protéger cet habitat qu'est la frigane.
Astragale.
Il n'y a pas de végétation sur la plage. On en trouve uniquement sur les rochers ou sur les murs autour des plages ainsi qu'en dehors des chemins. Il y a des plantes locales, petites et poussant en boule, des plantes envahissantes, beaucoup plus grandes et touffues. Nous avons identifié deux espèces locales particulières, le perce-pierre et la saladelle, qui est protégée au niveau national.
Le parc national des Calanques a une responsabilité parce qu'il abrite des espèces rares, végétales notamment, des habitats rares à l'échelle de l'Union européenne et qui sont en mauvais état de conservation. Je m'appelle Antonin Dupin, je suis chargé de mission au Parc national des Calanques. Je travaille sur la frange littorale, sur les enjeux de gestion, sur les espèces exotiques envahissantes notamment. J'ai été chargé de mission sur le Life Habitat Calanque. C'est un projet européen qui visait à protéger et restaurer des habitats littoraux d'intérêt communautaire, donc rares et menacés à l'échelle de l'Union européenne. C'est un projet qui a eu lieu entre 2017 et 2022 et qui a permis de mettre un peu un coup d'arrêt à la dégradation d'une partie du littoral des Calanques. Les pressions qu'on a identifiées, ça part avant tout de l'urbanisation. C'est qu'en fait, on a une urbanisation historique qui vient détruire des habitats littoraux, qui vient fragmenter les habitats littoraux. Ça peut être du bâti, ça peut être des routes.
La construction du port de la Pointe-Rouge et de sa digue dans les années 1960-1970 sur l'herbier de Posidonie a provoqué d'importantes modifications de la flore et de la faune sur notre AME. On y retrouve beaucoup de mattes mortes et de Posidonie. Il ne reste que quelques petites zones de Posidonie vivantes.
Alors une aire marine éducative, c'est une zone de petite taille gérée de manière participative par des élèves. Je m'appelle Françoise Budroni, j'étais enseignante à l'école Bonneveine, ça faisait une dizaine d'années, et on a fait le projet aire marine éducative pendant 6 ans.
Mélissa,
Calypso,
Apolline,
Tia.
C'était la plage des Bains des Dames.
Sur la plage, du coup, il y a des cabanons, et après sinon c'est une plage de cailloux.
Il y a des murs tagués aussi, il y a beaucoup d'escaliers pour descendre à la plage et pour remonter.
À côté des cabanons, il y avait un grand mur
où se situait la salade NN.
C'est notre trésor, en fait, parce qu'elle est très rare, la plante. Et
c'est une plante protégée qui est en voie de disparition. Elle pousse comme un coussin pour se protéger et elle prend 1 mm tous les ans. Donc ce qui est très peu, donc quand on l'arrache, ça prend énormément de temps à repousser.
Et aussi l'été, elle fleurit, du coup elle fait des fleurs mauves et son surnom, du coup, c'est lavande de mer.
Cette plante, en fait, sur cette plage a été sauvée grâce à l'aire marine éducative, parce que si on n'avait pas travaillé sur cette plage, découvert cette plante, on n'aurait pas su qu'elle était protégée et donc les travaux auraient tout détérioré, tout arraché. Alors que là, on a pu faire intervenir l'OFB et le parc qui ont fait arrêter les travaux.
Déjà pour commencer, c'est que si on perd une espèce, c'est très très compliqué de la faire revenir. C'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissements. Et c'est un succès qui n'est jamais garanti. Donc la meilleure façon de conserver une espèce, c'est de vraiment prévenir son déclin au bon moment. Parce qu'après, voilà, on est quasi de l'ordre de la science-fiction. Alors pour vraiment la faire revenir à son niveau d'avant.
C'est pas des zones où il fait bon vivre quand même. En revanche, pour se déplacer, pour se promener, c'est une zone qui est royale. C'est-à-dire, on n'est pas directement près des vagues, c'est-à-dire on risque rien, on a encore la fraîcheur un petit peu de la mer qui remonte, et on n'est pas trop dans la garrigue. Et c'est vrai que c'est une zone qui est paradoxalement très convoitée par les humains. Donc ces plantes qui sont là depuis des millénaires, elles sont peinardes jusqu'à maintenant. Puis depuis quelques siècles, elles sont embêtées par une autre espèce, qui est l'espèce humaine. Par exemple, on pense que toute la corniche Kennedy à Marseille s'est installée sur des frigans. Et c'est pareil pour la route qui va de la Pointe Rouge jusqu'à Calolong, ce qu'on appelle la route des Goudes. La route des Goudes, elle passe au milieu des frigans, parce que c'est là où c'est le plus cool pour construire la route. Et c'est là aussi, du coup, où on est allé déranger ces espèces qui, pour l'instant, n'étaient jamais dérangées.
On a travaillé sur deux pressions en particulier, que sont la fréquentation, c'est-à-dire le fait qu'il y a entre 1 et 3 millions de visiteurs par an dans les calanques, donc entre 2 et 6 millions de pieds qui foulent les calanques et qui potentiellement piétinent ces habitats un peu fragiles. On va avoir un impact un petit peu direct, c'est-à-dire le piétinement d'espèces végétales. Donc il y a des espèces qui le supportent très bien, il y en a d'autres qui ne le supportent pas si bien. Et en fait, le piétinement répété, hein, que ce soit d'ailleurs par des pieds humains, mais aussi par des roues de vélo, des roues de voiture, vont avoir un impact à terme sur ces espèces-là.
Là, il y a deux chemins possibles. Soit on continue par le haut, on suit le sentier normal. Soit on va un peu plus bas, tu vois, il y a une sente un peu plus fine, un peu plus proche de l'eau. Bon, après, les deux se rejoignent.
Ça peut être une fragmentation des habitats, c'est-à-dire quand il y a un passage répété de plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes sur un même endroit, en fait, ça va créer des chemins. Quand, en fait, il n'y a pas de balisage particulier, en fait, on va avoir un chevelu de ces chemins. En fait, chaque individu va tracer son propre chemin et à la fin, on va plus avoir de végétation continue. Donc ça, c'est une fragmentation qui, à certaines échelles, peut avoir un impact, notamment sur des insectes, des pollinisateurs, qui vont avoir plus de difficultés à naviguer dans cet écosystème qui est fragmenté, où il y a plus de terre nue finalement que de végétation. Et une autre pression qui est la compétition des espèces locales par des espèces dites exotiques envahissantes. Donc c'est des espèces qui sont introduites par l'homme, souvent à des fins ornementales, qui ont été souvent plantées à proximité immédiate du bâti, dans les cours des cabanons, souvent parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles demandent peu d'entretien, et qui vont proliférer, en fait, qui vont se naturaliser, c'est-à-dire qui vont devenir autonomes, être capables de se reproduire seules dans l'espace naturel, et puis se propager autour de cette tache bâtie pour aller se répandre sur les habitats littoraux. Et du coup, qui viennent en concurrence, en compétition avec des espèces locales.
À l'extérieur de l'eau, nous avons observé des plantes envahissantes, beaucoup plus grandes et touffues.
Des griffes de sorcières.
En fait, elle ressemble à des griffes. Elle est grasse, elle est envahissante. Elle prend la place des autres plantes.
L'agave, le figuier de Barbarie.
Quatre espèces dont on s'occupe principalement sur le littoral, c'est l'opon strict, donc le figuier de Barbarie, l'agave d'Amérique, les griffes de sorcières et la luzerne arborescente.
la griffe de sorcière, la luzerne arborescente.
Donc les griffes de sorcière qui sont cette plante un peu grasse, couvre-sol, qui vient d'Afrique du Sud. La luzerne arborescente qui est un arbuste aux fleurs jaunes qui est très présente sur le littoral calcaire. Et l'agave d'Amérique que tout le monde connaît plus ou moins, qui est cette grande plante qui fait une grande tige florale avec une hampe qui peut aller jusqu'à 3 mètres de hauteur. Les espèces exotiques envahissantes vont venir concurrencer ces espèces locales. Si on prend l'exemple des figuiers de Barbarie ou disons des opponces strictes là, qu'on a sur le paysage, qui sont un cactus qui est en mesure de se reproduire par bouturage et qui est aussi en mesure de se reproduire par des graines. Donc il peut se reproduire très rapidement et il a une capacité de recouvrement qui est assez importante. Donc il va assez vite grandir, prendre de la place, s'accaparer les ressources au détriment d'autres espèces. Du coup, nous, on va essayer de contrôler la prolifération de ces espèces sur certains endroits seulement. L'idée, c'est pas du tout d'être dans une croisade absolutiste contre ces espèces-là. Elles sont très répandues et ça serait de toute façon impossible. On va vraiment intervenir sur les endroits où il y a des enjeux forts, c'est-à-dire où il y a des espèces végétales protégées ou rares ou qui sont en mauvaise situation. Donc, on va intervenir sur ces endroits et là, on va procéder à un arrachage, souvent manuel, de ces espèces avant de les évacuer et de les traiter. On essaye surtout de faire un traitement par compostage. Donc on va essayer de les broyer et de les transformer en fait en terre.
Moi, avant, pas forcément en me rendant compte, je pouvais, sans faire exprès, marcher sur les plantes. Et maintenant, je me suis vraiment rendu compte de l'importance et que ça pouvait pousser très lentement et même que c'était pas bien de faire ça.
Lorsqu'on va prendre le bain, bien souvent, on va poser nos affaires dans ces écosystèmes-là parce que on est pas couillons, comme on dit à Marseille. On va pas aller poser les serviettes et les sacs dans un endroit où les vagues risquent de les emporter. Donc, on monte juste un petit peu plus haut. Et on fait exactement ce qu'ont fait les plantes à l'époque. Elles sont posées juste un petit peu plus haut. Donc, nous, on arrive, on pose nos affaires dans des endroits comme ça. Et bien, quand on fait ça, on risque de déranger fortement et de nuire à ces plantes-là.
Le conseil, c'est d'être attentif un petit peu à ce qui nous entoure, de regarder où on marche, d'essayer au maximum d'éviter de piétiner les espèces. Et puis, surtout, c'est un encouragement à connaître ces plantes-là, à essayer de voir ce qu'elles ont, ce qu'on a sur ce territoire de spécifique et de rare et d'apprendre à les reconnaître. Et c'est la meilleure façon peut-être de les protéger à l'avenir. Et à part ça, essayer de rester sur les sentiers balisés, essayer de pas planter d'espèces exotiques envahissantes, essayer au maximum de planter des espèces locales, même dans sa jardinière, c'est déjà un bon début.
La salade naine, si on ne la connaît pas, on ne peut pas savoir qu'elle est protégée, et encore moins, il ne faut pas l'arracher.
Il ne faut surtout pas polluer, que ce soit à la plage ou même dans la ville.
Ou les ancres de bateaux qui arrachent toute la posidonie et les êtres vivants sous l'eau.
Si on voit des déchets sur la plage, par exemple, on peut les ramasser et les mettre à la poubelle après.
De toute façon, gardons à l'esprit que toutes les saletés de la Terre, toutes les saletés générées par l'humain, par les activités humaines, se retrouvent à un moment donné ou à un autre à la mer. C'est le principe même, c'est le principe des flux. Et à la mer, pas n'importe où, c'est directement sur le littoral. C'est le premier bassin de réception de toutes les saletés et de tous nos résidus. Les détergents font exactement ce qu'ils font quand vous faites la vaisselle, enlever le gras. Et bien lorsque ces gouttelettes arrivent sur la feuille de ces plantes qui résistent au sel, elles vont attaquer cette couche cireuse et ça va attaquer la couche de gras à la surface de la feuille. Ce qui fait que la feuille sera plus protégée du sel et le sel va rentrer dans la feuille et va finalement arriver à faire dépérir une plante qui au départ était faite pour supporter le sel parce que les détergents leur enlèvent leur immunité par rapport au sel. Lorsque vous baladez sur le littoral vers Calolong, entre les pointes rouges Calolong, vous voyez tous ces végétaux qui sont couchés par le vent et qui sont brûlés par le dessus, par le fait de ces détergents, de ces polluants. comment faire pour éviter qu'il y ait des déterlants dans l'eau? Ben là, il faut remonter la chaîne, il faut remonter chez chacun de nous, il faut remonter chez les fournisseurs de produits, chez les industriels, ça va assez loin, et faire en sorte de plus en plus d'avoir des produits qui ne soient pas agressifs en termes de tensioactifs, c'est-à-dire prendre des savons qui sont doux, prendre des produits vaisselle qui soient doux, prendre des produits machine à laver le linge qui soient doux. Et si on fait ça, on va faire beaucoup de bien au littoral, et au passage, on fera beaucoup de bien à soi-même. Parce que si on diminue l'agressivité de nos savons, c'est notre épiderme et finalement c'est notre organisme qui va se sentir mieux. Donc tout le bien qu'on fait à la nature, c'est du bien qu'on fait à soi-même. Et on appelle ça la notion d'interdépendance ou de solidarité écologique. Si on fait du bien à la nature, en retour, la nature nous fait du bien. Quand on va se baigner, c'est difficile. Je suis un enfant des Calanques, j'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie dans les Calanques. On avait un cabanon à cale longue. Donc c'est pas moi qui vais dire n'allez pas vous baigner, surtout pas. J'ai trop profité de ces endroits-là. La seule chose qu'il faut avoir en tête, mais ça c'est l'idée générale par rapport au comportement qu'on a par rapport au reste du vivant, qu'on appelle la nature, se dire qu'on n'est pas chez soi. On n'est pas que chez soi non plus. Ça veut dire que si on y va, on y va en respectant les riverains, ceux qui sont là depuis des siècles, voire des millénaires, c'est-à-dire ce sont ces plantes-là. Donc bien sûr qu'il faudrait continuer à les prendre le bain, mais comme je disais tout à l'heure, les rochers piquants qui nous rappellent qu'on arrive dans un autre milieu, c'est pareil, dès qu'on sort de chez soi, se dire que attention, on va y aller en douceur, on va marcher sur des œufs, on va marcher sur des piquants, donc on va faire en sorte de ne pas gêner ceux qui sont là depuis très longtemps et qui ont besoin de tranquillité. Sa serviette, bien on va la laisser sur le rocher, mais tant pis, aux bains de soleil, on fait pas des bains de soleil, on s'étend pas sur la serviette. Vous allez me dire, c'est triste, c'est comme ça la vie, oui, mais si on ne fait pas le lézard au soleil, bien, là aussi on va se faire du bien à soi-même, parce qu'on va éviter les cancers de la peau qui vont arriver à plus ou moins long terme. On se pose, on s'assoit, on contemple, et puis après on rentre chez soi, et au passage presque on caresse à peine l'astragale, parce que pas fort, parce qu'attention, elle pique, mais là aussi elle nous avertit l'astragale qu'il faut faire attention avec elle aussi. Donc on profite du lieu. Et bien sûr, on profite de la mer. Et en fait, il faut se faire le plus discret possible, se dire qu'on n'est pas chez soi. On nous laisse l'accès, on nous prête ce lieu qui est magique, et on essaye de le rendre aussi propre et aussi bien que ce qu'on a vu quand on est arrivé.
De calcaire et de sel, une série coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc National des Calanques. Dans cet épisode sur la frange littorale, vous avez pu entendre les voix de Thierry Tatoni, professeur en sciences écologiques à Aix-Marseille Université et président du conseil scientifique du Parc national des Calanques. Antonin Dupin, chargé de mission gestion opérationnelle des espèces végétales exotiques envahissantes au Parc national des Calanques. Françoise Budroni, enseignante à l'école Bonneveine à Marseille. Mais aussi les voix de Mélissa, Calypso, Apolline et Tia, élèves participantes à l'aire marine éducative de la plage du Bain des Dames.
Réalisation Jean-Baptiste Imbert.